Chapitre 13 de Charles Ier et de Louis XVI. Beaucoup de personnes ont attribué les désastres de la France à la faiblesse du caractère de Louis XVI. Et l'on a cessé de répéter que sa condescendance pour les principes de la liberté a été l'une des causes essentielles de la Révolution. Il me semble donc curieux de montrer à ceux qui se persuadent qu'il suffisait en France à cette époque de tel ou tel homme pour tout prévenir, de telle ou telle résolution pour tout arrêter. Il me semble curieux, dis-je, de leur montrer que la conduite de Charles Ier a été, sous tous les rapports, l'opposé de celle de Louis XVI, et que pourtant deux systèmes contraires ont amené la même catastrophe. Tant est invincible la force des révolutions dont l'opinion du grand nombre est la cause. Jacques Ier, le père de Charles, disait que l'on pouvait juger la conduite des rois puisque l'on se permettait bien d'examiner les décrets de la Providence, mais que leur puissance ne pouvait pas plus être mise en doute que celle de Dieu. Charles Ier avait été élevé dans ses maximes. Il regardait comme une mesure aussi condamnable qu'impolitique toute concession faite par l'autorité royale. Louis XVI, 150 ans plus tard, était modifié par son siècle. La doctrine de l'obéissance passive, qui subsistait encore en Angleterre du temps de Charles Ier, n'était plus soutenue même par le clergé de France en 1789. Le Parlement anglais avait existé de tout temps. Et quoiqu'il ne fût pas irrévocablement décidé que son consentement fût nécessaire pour l'impôt, cependant on avait coutume de le lui demander. Mais, comme il accordait des subsides pour plusieurs années, le roi d'Angleterre n'était pas, comme aujourd'hui, dans l'obligation de le rassembler tous les ans, et très souvent on prolongeait les impôts sans que le renouvellement en fût prononcé par les représentants du peuple. Toutefois, le Parlement protestait toujours contre cet abus. La querelle des communes avec Charles Ier commença sur ce terrain. On lui reprocha deux impôts qu'il percevait sans le consentement de la nation. Irrité de ce reproche, il ordonna, d'après le droit constitutionnel qu'il en avait, que le Parlement fût dissous, et il resta 12 ans sans en convoquer un autre. Interruption presque sans exemple dans l'histoire d'Angleterre. La querelle de Louis XVI commença, comme celle de Charles Ier, par des embarras de finances. Et ce sont toujours ces embarras qui mettent les rois dans la dépendance des peuples. Mais Louis XVI convoqua les États généraux, qui, depuis près de 200 ans, étaient presque oubliés en France. Louis XIV avait supprimé, jusqu'aux remontrances du Parlement de Paris, seul privilège politique laissé à ce corps, lorsqu'il enregistrait les édits Bursault. Henri VIII, en Angleterre, avait fait recevoir ses proclamations comme ayant force de loi. Ainsi donc, Charles Ier et Louis XVI pouvaient tous les deux se considérer comme les héritiers d'un pouvoir sans bornes. Mais avec cette différence, que le peuple anglais s'appuyait toujours avec raison sur le passé pour réclamer ses droits, tandis que les Français demandaient une chose nouvelle, puisque la convocation des États généraux n'était prescrite par aucune loi. Louis XVI, d'après la Constitution ou la non-Constitution de France, n'était point obligé à appeler les États généraux. Charles Ier, en restant 12 années sans rassembler le Parlement anglais, violait les privilèges reconnus. Pendant les 12 années d'interruption du Parlement sous Charles Ier, la Chambre étoilée, tribunal irrégulier, qui exécutait les volontés du roi d'Angleterre, exerça toutes les rigueurs imaginables. Prynne fut condamné à avoir les oreilles coupées pour avoir écrit, d'après la doctrine des puritains, contre les spectacles et contre la hiérarchie ecclésiastique. Allison et Robbins subirent la même peine, parce qu'ils manifestaient une opinion différente de celle de l'archevêque d'York. Lilburn fut attaché au pilori, inhumainement livré aux verges, et de plus bâillonné, parce que ses courageuses complaintes faisaient effet sur le peuple. Williams, un évêque, subit un supplice du même genre. Les plus cruelles punitions furent infligées à ceux qui se refusaient à payer les taxes ordonnées par une simple proclamation du roi, des amendes assez fortes pour ruiner ceux qui y étaient condamnés furent exigées par la même chambre étoilée dans une foule de cas différents. Mais, en général, c'était surtout contre la liberté de la presse qu'on sévissait avec violence. Louis XVI ne fit presque pas usage du moyen arbitraire des lettres de cachet pour exiler ou pour mettre en prison. Aucun acte de tyrannie ne put lui être reproché, et, loin de réprimer la liberté de la presse, ce fut l'archevêque de Sens, premier ministre du roi, qui invita, en son nom, tous les écrivains à faire connaître leur opinion sur la forme et la convocation des États généraux. La religion protestante était établie en Angleterre, mais, comme l'Église anglicane admet le roi pour chef, Charles Ier avait certainement beaucoup plus d'influence sur son Église que le roi de France sur la sienne. Le clergé anglais, conduit par Laud, quoique protestant, était et plus absolu sous tous les rapports et plus sévère que le clergé français, car l'esprit philosophique s'était introduit chez quelques-uns des chefs de l'Église gallicane, et Laud était plus sûrement orthodoxe que le cardinal de Rohan, le premier des évêques de France. L'autorité et la hiérarchie ecclésiastique furent maintenues avec une extrême sévérité par Charles Ier. La plupart des sentences cruelles qu'on peut reprocher à la chambre étoilée eurent pour objet de faire respecter le clergé anglais. Celui de France ne se défendit guère et ne fut pas défendu. Tous les deux furent également supprimés par la Révolution. La noblesse anglaise n'eut point recours aux mauvais moyens de l'émigration, aux plus mauvais moyens encore d'appeler les étrangers. Elle entoura le trône constamment et se battit avec le roi pendant la guerre civile. Les principes philosophiques, à la mode en France au commencement de la Révolution, excitaient un grand nombre de nobles à tourner eux-mêmes en ridicule leurs privilèges. L'esprit du XVIIe siècle ne portait pas la noblesse anglaise à douter de ses propres droits. La chambre étoilée punit avec une extrême rigueur des hommes qui s'étaient permis de plaisanter sur quelques lords. La plaisanterie n'est jamais interdite aux Français. Les nobles d'Angleterre étaient graves et sérieux, tandis que ceux de France sont légers et moqueurs. Et cependant les uns et les autres furent également dépouillés de leurs privilèges. Et tandis que tout a différé dans les mesures de défense, tout fut pareil dans la défaite. L'on a souvent dit que la grande influence de Paris sur le reste de la France était l'une des causes de la Révolution. Londres n'a jamais exercé le même ascendant sur l'Angleterre, parce que les grands seigneurs anglais vivaient beaucoup plus dans les provinces que les grands seigneurs français. Enfin, on a prétendu que le premier ministre de Louis XVI, M. Necker, avait des principes républicains et qu'un homme tel que le cardinal de Richelieu aurait su prévenir la Révolution. Le comte de Stafford, ministre favori de Charles Ier, était d'un caractère ferme et même despotique. Il avait, de plus que le cardinal de Richelieu, l'avantage d'être un grand et brave militaire, ce qui donne une meilleure grâce à l'exercice du pouvoir absolu. M. Necker a joui de la plus grande popularité qu'aucun homme ait eue en France. Le comte de Stafford a toujours été l'objet de l'animosité du peuple, et tous les deux, cependant, ont été renversés par la Révolution et sacrifiés par leur maître. Le premier, parce que les communes le dénoncèrent, le second, parce que les courtisans exigèrent son renvoi. Enfin, c'est ici la plus remarquable des différences. On a cessé de reprocher à Louis XVI de n'avoir pas monté à cheval, de n'avoir pas repoussé la force par la force, et d'avoir craint la guerre civile avant tout. Charles Ier l'a commencé, avec des motifs sans doute très plausibles, mais enfin il l'a commencé. Il quitta Londres, se rendit dans la province et se mit à la tête d'une armée qui défendit l'autorité royale jusqu'à la dernière extrémité. Charles Ier ne voulut pas reconnaître la compétence du tribunal qui le condamna. Louis XVI ne fit pas une seule protestation contre ses juges. Charles Ier était infiniment supérieur à Louis XVI par son esprit, sa figure et ses talents militaires. tout fait contraste entre ces deux monarques, excepté leur malheur. Il existait cependant un rapport dans les sentiments qui seul peut expliquer la ressemblance des destinées. C'est que Charles Ier aimait, au fond du cœur, le catholicisme proscrit par l'opinion dominante en Angleterre, et que Louis XVI aussi souhaitait de maintenir les anciennes institutions politiques de la France. Ce rapport a causé la perte de tous les deux. C'est dans l'art de conduire l'opinion, ou d'y céder à propos, que consiste la science de gouverner dans les temps modernes. Chapitre 14. Guerre entre la France et l'Angleterre. Monsieur Pitt et Monsieur Fox. Pendant plusieurs siècles, les rivalités de la France et de l'Angleterre ont fait le malheur de ces deux pays. C'était un combat de puissance, mais la lutte causée par la Révolution ne peut être considérée sous le même rapport. S'il y a eu, depuis 23 ans, des circonstances où l'Angleterre aurait pu traiter avec la France, il faut convenir aussi qu'elle a eu pendant ce temps de grandes raisons de lui faire la guerre, et plus souvent encore de se défendre contre elle. La première rupture, qui éclata en 1793, était fondée sur les motifs les plus justes. Si la Convention, en se rendant coupable du meurtre de Louis XVI, n'avait point professé et propagé des principes subversifs de tous les gouvernements, si elle n'avait point attaqué la Belgique et la Hollande, les Anglais auraient pu ne pas prendre plus de part à la mort de Louis XVI que Louis XIV n'en prit à celle de Charles Ier. Mais, au moment où le ministère renvoya l'ambassadeur de France, la nation anglaise souhaitait la guerre plus vivement encore que son gouvernement. Je crois avoir suffisamment développé, dans les chapitres précédents, qu'en 1791, pendant la durée de l'Assemblée constituante, et même en 1792, sous l'Assemblée législative, les puissances étrangères ne devaient pas accéder à la Convention de Pillnitz. Ainsi donc, si la diplomatie anglaise s'est mêlée de ce grand acte politique, elle est intervenue trop tôt dans les affaires de France, et l'Europe s'en est mal trouvée, puisque c'est ainsi qu'elle a donné d'immenses forces militaires aux Français. Mais, au moment où l'Angleterre a déclaré formellement la guerre à la France, en 1793, les Jacobins s'étaient tout à fait emparés du pouvoir, et non seulement leur invasion en Hollande, mais leurs crimes et les principes qu'ils proclamaient faisaient un devoir d'interrompre toute communication avec eux. La persévérance de l'Angleterre à cette époque la préservait des troubles qui menaçaient son repos intérieur lors de la révolte de la flotte et de la fermentation des sociétés populaires. Et de plus, elle a soutenu l'espoir des honnêtes gens en leur montrant quelque part, sur cette terre, la morale et la liberté réunies à une grande puissance. Si l'on avait vu la nation anglaise envoyer des ambassadeurs à des assassins, la vraie force de cette île merveilleuse, la confiance qu'elle inspire, l'aurait abandonnée. Il ne s'ensuit pas de cette manière de voir que l'opposition qui voulait la paix, et M. Fox qui, par ses étonnantes facultés, représentait un parti à lui seul, ne fussent inspirés par des sentiments très respectables. M. Fox se plaignait, et avec raison, de ce que l'on confondait sans cesse les amis de la liberté avec ceux qui l'ont souillé. Il craignait que la réaction d'une tentative si malheureuse n'affaiblit l'esprit de liberté, principe vital de l'Angleterre. En effet, si la Réformation eut échoué il y a 3 siècles, que serait devenue l'Europe? Et dans quel état serait-elle maintenant si l'on enlevait à la France tout ce qu'elle a gagné par sa réforme politique? M. Pitt rendit à cette époque de grands services à l'Angleterre, en tenant d'une main ferme le gouvernail des affaires. Mais il penchait trop vers l'amour du pouvoir, malgré la simplicité parfaite de ses goûts et de ses habitudes. Ayant été ministre très jeune, il n'avait pas eu le temps d'exister comme homme privé, et d'éprouver ainsi l'action de l'autorité sur ceux qui dépendent d'elle. Son cœur ne battait pas pour le faible, et les artifices politiques, qu'on est convenu d'appeler machiavélisme, ne lui inspirait pas tout le mépris qu'on devait attendre d'un génie tel que le sien. Néanmoins, son admirable éloquence lui faisait aimer les débats d'un gouvernement représentatif. Il tenait encore à la liberté par le talent, car il était ambitieux de convaincre, tandis que les hommes médiocres n'aspirent qu'à commander. Le ton sarcastique de ses discours était singulièrement adapté aux circonstances dans lesquelles il s'est trouvé. Lorsque toute l'aristocratie des sentiments et des principes triomphait à l'aspect des excès populaires, l'énergique ironie de M. Pitt convenait aux patriciens qui jettent sur ses adversaires l'odieuse couleur de l'irréligion et de l'immoralité. La clarté, la sincérité, la chaleur de M. Fox pouvaient seuls échapper à ces armes tranchantes. Il n'avait point de mystère en politique, parce qu'il regardait la publicité comme plus nécessaire encore dans les affaires des nations que dans tout autre rapport. Lors même qu'on n'était pas de son avis, l'on l'aimait mieux que son adversaire. Et quoique la force de l'argumentation fût le caractère distinctif de son éloquence, on sentait tant d'âme au fond de ses raisonnements que l'on en était ému. Son caractère portait l'empreinte de la dignité anglaise, comme celui de son antagoniste. Mais il avait une candeur naturelle à laquelle le contact avec les hommes ne saurait porter atteinte, parce que la bienveillance du génie est inaltérable. Il n'est pas nécessaire de décider entre ces deux grands hommes, et personne n'oserait se croire capable d'un tel jugement. Mais la pensée salutaire, qui doit résulter des discussions sublimes dont le Parlement anglais a été le théâtre, c'est que le parti ministériel a toujours eu raison quand il a combattu le jacobinisme et le despotisme militaire. Mais toujours tort, et grand tort, quand il s'est fait l'ennemi des principaux libéraux en France. Les membres de l'opposition, au contraire, ont dévié des nobles fonctions qui leur sont attribuées quand ils ont défendu les hommes dont les forfaits perdaient la cause de l'espèce humaine. Et cette même opposition a bien mérité de l'avenir quand elle a soutenu la généreuse élite des Amis de la Liberté qui, depuis 25 ans, se dévoue à la haine des deux partis en France et qui n'est forte que d'une grande alliance, celle de la vérité. On peut donner l'idée de la différence essentielle qui existe entre les Tories et les Whigs, entre les ministériels et l'opposition, relativement aux affaires de France. L'esprit de parti réussit à dénaturer les plus belles actions, tant que vivent encore ceux qui les ont faites. Mais il n'en est pas moins certain que l'Antiquité n'offre rien de plus beau que la conduite du général Lafayette, de sa femme et de ses filles, dans les prisons d'Olmutz. On peut trouver les détails les plus exacts à cet égard dans l'excellent ouvrage de M. Emmanuel de Toulangeau, intitulé « Histoire de France depuis 1789 ». Il importe aux étrangers qu'on leur fasse connaître les écrits véridiques sur la Révolution, car jamais on n'a publié, sur aucun sujet, un aussi grand nombre de livres et de brochures où le mensonge se soit replié de tant de manières pour tenir lieu de talent et satisfaire à mille genres de vanité. Le général était dans ses prisons pour avoir, d'une part, quitté la France après l'emprisonnement du roi, et de l'autre, pour s'être refusé à toute liaison avec les gouvernements qui faisaient la guerre à son pays. Et l'admirable Madame de Lafayette, à peine sortie des cachots de Robespierre, ne perdit pas un jour pour venir s'enfermer avec son mari et s'exposer à toutes les souffrances qui ont abrégé sa vie. Tant de fermeté dans un homme depuis si longtemps fidèle à la même cause, tant d'amour conjugal et filial dans sa famille, devait intéresser le pays où ses vertus sont natives. Le général Fitzpatrick demanda donc que le ministère anglais intercédât auprès de ses alliés pour en obtenir la liberté du général Lafayette. M. Fox plaida cette cause, et cependant le Parlement anglais entendit le discours sublime dont nous allons transcrire la fin, sans que les députés d'un pays libre se levassent tous pour accéder à la proposition de l'orateur, qui n'aurait dû être, dans cette occasion, que leur interprète. Les ministres s'opposèrent à la motion du général Fitzpatrick, en disant, comme à l'ordinaire, que que la captivité du général Lafayette concernait les puissances du continent et que l'Angleterre, en s'en mêlant, violerait le principe général qui lui défend de s'immiscer dans l'administration intérieure des pays étrangers. M. Fox combattit admirablement cette réponse, dès lors astucieuse. M. Windham, secrétaire de la guerre, repoussa les éloges que M. Fox avait donnés au général Lafayette, et ce fut à cette occasion que M. Fox lui répondit ainsi. « Le secrétaire de la guerre a parlé, et ses principes sont désormais au grand jour. Il ne faut jamais pardonner à ceux qui commencent les révolutions, et cela dans le sens le plus absolu, sans distinction ni de circonstances ni de personnes. Quelque corrompu, quelque intolérant, quelque oppressif, quelque ennemi des droits et du bonheur de l'humanité que soit un gouvernement, quelque vertueux, quelque modéré, quelque patriote, quelque humain que soit un réformateur, celui qui commence la réforme la plus juste doit être dévoué à la vengeance la plus irréconciliable. S'il vient après lui des hommes indignes de lui, qui ternissent par leurs excès la cause de la liberté, ceux-là peuvent être pardonnés. Toute la haine de la révolution criminelle doit se porter sur celui qui a commencé une révolution vertueuse. Ainsi, le très honorable secrétaire de la guerre pardonne de tout son cœur à Cromwell, parce que Cromwell n'est venu qu'en second, qu'il a trouvé les choses préparées, et qu'il n'a fait que tourner les circonstances à son profit. Mais nos grands, nos illustres ancêtres, Pym, Hampden, le lord Falkland, le comte de Bedford, tous ces personnages à qui nous sommes accoutumés à rendre des honneurs presque divins, pour le bien qu'ils ont fait à la race humaine et à leur patrie, pour les maux dont ils nous ont délivrés, pour le courage prudent, l'humanité généreuse, le noble désintéressement avec lesquels ils ont poursuivi leur dessein. Voilà les hommes qui, suivant la doctrine professée dans ce jour, doivent être voués à une exécration éternelle. Jusqu'ici, nous trouvions Hume assez sévère, lorsqu'il dit que Hampden est mort au moment favorable pour sa gloire, parce que, s'il eût vécu quelques mois de plus, il allait probablement découvrir le feu caché d'une violente ambition. Mais Hume va nous paraître bien doux auprès du très honorable secrétaire de la guerre. Selon ce dernier, les hommes qui ont noirci par leurs crimes la cause brillante de la liberté ont été vertueux en comparaison de ceux qui voulaient seulement délivrer leur pays du poids des abus, des fléaux, de la corruption et du joug de la tyrannie. Cromwell, Harrison, Bradshaw, l'exécuteur masqué qui a fait tomber la tête de l'infortuné Charles Ier. Voilà les objets de la tendre commisération et de l'indulgence éclairée du très honorable secrétaire de la guerre. Hampden, Bedford, Falkland, tués en combattant pour son roi. Voilà les criminels pour lesquels il ne trouve pas encore assez de haine dans son cœur, ni assez de supplice sur la terre. Le très honorable secrétaire de la guerre nous l'a dit positivement. Aux yeux de ses rois et de ses ministres absolus, Collot d'Herbois est bien loin de mériter autant de haine et de vengeance que Lafayette. Après m'être étonné d'abord de cette opinion, je commence à la concevoir. En effet, Collot d'Herbois est un infâme et un monstre. Lafayette est un grand caractère et un homme de bien. Collot d'Herbois souille la liberté. Il la rend haïssable par tous les crimes qu'il ose revêtir de son nom. Lafayette l'honore, il la fait chérir par toutes les vertus dont il la montre environnée, par la noblesse de ses principes, par la pureté inaltérable de ses actions, par la sagesse et la force de son esprit, par la douceur, le désintéressement, la générosité de son âme. Oui, je le reconnais, d'après les nouveaux principes, c'est Lafayette qui est dangereux, c'est lui qu'il faut haïr, et le pauvre Collot d'Herbois a droit à cet accent si tendre avec lequel on a sollicité pour lui l'intérêt de la chambre. Oui, je rends justice à la sincérité du très honorable secrétaire de la guerre. Il n'a rien feint, j'en suis sûr. le son de sa voix n'a été que l'expression de son âme, chaque fois qu'il a imploré la miséricorde pour le pauvre Collot d'Herbois, ou appelé de tous les coins de la terre la haine, la vengeance et la tyrannie, pour exterminer le général Lafayette, sa femme et ses enfants, ses compagnons et ses serviteurs. Mais moi qui sens autrement, moi qui suis encore ce que j'ai toujours été, moi qui vivrai et mourrai l'ami de l'ordre, mais de la liberté, l'ennemi de l'anarchie, mais de la servitude, je n'ai pas cru qu'il me fût permis de garder le silence après de tels outrages, après de tels blasphèmes vomis dans l'enceinte d'un parlement anglais contre l'innocence et la vérité, contre les droits et le bonheur de l'espèce humaine, contre les principes de notre glorieuse révolution, enfin, contre la mémoire sacrée de nos illustres ancêtres, de ces hommes dont la sagesse, les vertus et les bienfaits sont révérés et bénis par le peuple anglais jusqu'à la dernière génération. Fin des guillemets. Malgré l'incomparable beauté de ces paroles, tel était l'effroi qu'inspirait alors aux Anglais la crainte d'un bouleversement social, que le mot de liberté même ne retentissait plus à leur âme. De tous les sacrifices qu'on peut faire à sa conscience d'homme public, il n'en est point de plus grand que ceux auxquels s'est condamné M. Fox pendant la Révolution de France. Ce n'est rien que de supporter des persécutions sous un gouvernement arbitraire, mais de voir l'opinion s'éloigner de soi dans un pays libre, mais d'être abandonné par ses anciens amis, quand parmi ses amis il y avait un homme tel que Burke, mais de se trouver impopulaire dans la cause même du peuple. C'est une douleur pour laquelle M. Fox mérite d'être plaint autant qu'admiré. On l'a vu verser des larmes au milieu de la Chambre des communes en prononçant le nom de cet illustre Burke, devenu si violent dans ses passions nouvelles. Il s'approcha de lui parce qu'il savait que son cœur était brisé par la mort de son fils. Car jamais l'amitié, dans un caractère tel que celui de Fox, ne saurait être altérée par les sentiments politiques. Il pouvait être avantageux toutefois à l'Angleterre que M. Pitt fût le chef de l'État, dans la crise la plus dangereuse où ce pays se soit trouvé. Mais il ne l'était pas moins qu'un esprit aussi étendu que celui de M. Fox soutint les principes, malgré les circonstances, et sut préserver les dieux pénates des amis de la liberté au milieu de l'incendie. Ce n'est point pour contenter les deux partis que je les loue ainsi tous les deux, quoiqu'ils aient soutenu des opinions très opposées. Le contraire en France devait peut-être avoir lieu. Les factions diverses y sont presque toujours également blâmables. Mais dans un pays libre, les partisans du ministère et les membres de l'opposition peuvent avoir tous raison à leur manière, et ils font souvent chacun du bien selon l'époque. Ce qui importe seulement, c'est de ne pas prolonger le pouvoir acquis par la lutte après que le danger est passé. Chapitre 15. Du fanatisme politique. Les événements que nous avons rappelés jusqu'à présent ne sont que de l'histoire, dont l'exemple peut s'offrir ailleurs. Mais un abîme va s'ouvrir maintenant sous nos pas. Nous ne savons quelle route suivre dans un tel gouffre. Et la pensée se précipite avec effroi, de malheurs en malheurs, jusqu'à l'anéantissement de tout espoir et de toute consolation. Nous passerons le plus rapidement qu'il nous sera possible sur cette crise affreuse, dans laquelle aucun homme ne doit fixer l'attention. Aucune circonstance ne saurait exciter l'intérêt. Tout est semblable, bien qu'extraordinaire. Tout est monotone, bien qu'horrible. Et l'on serait presque honteux de soi-même si l'on pouvait regarder ces atrocités grossières d'assez près pour les caractériser en détail. Examinons seulement le grand principe de ces monstrueux phénomènes, le fanatisme politique. Les passions mondaines ont toujours fait partie du fanatisme religieux. Et souvent, au contraire, la foi véritable à quelques idées abstraites alimente le fanatisme politique. Le mélange se trouve partout, mais c'est dans sa proportion que consiste le bien et le mal. l'ordre social est en lui-même un bizarre édifice. On ne peut cependant le concevoir autrement qu'il n'est. Mais les concessions auxquelles il faut se résoudre pour qu'il subsiste tourmentent par la pitié les âmes élevées, satisfont la vanité de quelques-uns et provoquent l'irritation et les désirs du grand nombre. C'est à cet état de choses, plus ou moins prononcé, plus ou moins adouci par les mœurs et par les lumières, qu'il faut attribuer le fanatisme politique dont nous avons été témoins en France. Une sorte de fureur s'est emparée des pauvres en présence des riches, et, les distinctions nobiliaires ajoutant à la jalousie qu'inspire la propriété, le peuple a été fier de sa multitude, et tout ce qui fait la puissance et l'éclat de la minorité ne lui a paru qu'une usurpation. Les germes de ce sentiment ont existé dans tous les temps, mais on a senti trembler la société humaine dans ses fondements qu'à l'époque de la Terreur en France. On ne doit point s'étonner si cet abominable fléau a laissé de profondes traces dans les esprits. Et la seule réflexion qu'on puisse se permettre, et que le reste de cet ouvrage, j'espère, confirmera, c'est que le remède aux passions populaires n'est pas dans le despotisme, mais dans le règne de la loi. Le fanatisme religieux présente un avenir indéfini qui exalte toutes les espérances de l'imagination. Mais les jouissances de la vie sont aussi sans bornes aux yeux de ceux qui ne les ont pas goûtées. Le vieux de la montagne envoyait ses sujets à la mort, à force de leur accorder des délices sur cette terre. Et l'on voit souvent les hommes s'exposer à mourir pour mieux vivre. D'autre part, la vanité s'exalte par la défense des supériorités qu'elle possède. Elle paraît moins coupable que les attaquants, parce qu'une idée de propriété s'attache même aux injustices lorsqu'elles ont existé depuis longtemps. Néanmoins, les deux éléments du fanatisme religieux et du fanatisme politique subsistent toujours. La volonté de dominer dans ceux qui sont au haut de la roue, l'ardeur de la faire tourner dans ceux qui sont en bas. Tel est le principe de toutes les violences. Le prétexte change, la cause reste, et l'acharnement réciproque demeure le même. Les querelles des patriciens et des plébéiens, la guerre des esclaves, celle des paysans, celle qui dure encore entre les nobles et les bourgeois, toutes ont eu également pour origine la difficulté de maintenir la société humaine sans désordre et sans injustice. Les hommes ne pourraient exister aujourd'hui ni séparés ni réunis si le respect de la loi ne s'établissait pas dans les têtes. Tous les crimes naîtraient de la société même qui doit les prévenir. Le pouvoir abstrait des gouvernements représentatifs n'irrite en rien l'orgueil des hommes, et c'est par cette institution que doivent s'éteindre les flambeaux des furies. Ils se sont allumés dans un pays où tout était amour-propre, et l'amour-propre irrité chez le peuple ne ressemble point à nos nuances fugitives, c'est le besoin de donner la mort. Des massacres, non moins affreux que ceux de la terreur, ont été commis au nom de la religion. La race humaine s'est épuisée pendant plusieurs siècles en efforts inutiles pour contraindre tous les hommes à la même croyance. Un tel but ne pouvait être atteint, et l'idée la plus simple, la tolérance, telle que Guillaume Penn l'a professée, a banni pour toujours du nord de l'Amérique le fanatisme dont le Midi a été l'affreux théâtre. Il en est de même du fanatisme politique. La liberté seule peut le calmer. Après un certain temps, quelques vérités ne seront plus contestées, et l'on parlera des vieilles institutions comme des anciens systèmes de physique, entièrement effacés par l'évidence des faits. Les différentes classes de la société, n'ayant presque point eu de relations entre elles en France, leur antipathie mutuelle en était plus forte. Il n'est aucun homme, même le plus criminel, qu'on puisse détester quand on le connaît, comme quand on se le représente. L'orgueil mettait partout des barrières et nulle part des limites. Dans aucun pays, les gentilshommes n'ont été aussi étrangers au reste de la nation. il ne touchait à la seconde classe que pour la froisser. Ailleurs, une certaine bonhomie, des habitudes même plus vulgaires, confondent davantage les hommes, bien qu'ils soient légalement séparés. Mais l'élégance de la noblesse française accroissait l'envie qu'elle inspirait. Il était aussi difficile d'imiter ses manières que d'obtenir ses prérogatives. La même scène se répétait de rang en rang. L'irritabilité d'une nation très vive portait chacun la jalousie envers son voisin, envers son supérieur, envers son maître, et tous les individus, non contents de dominer, s'humiliaient les uns les autres. C'est en multipliant les rapports politiques entre les divers rangs, en leur donnant les moyens de se servir mutuellement, qu'on peut apaiser dans le cœur la plus horrible des passions, la haine des mortels contre leurs semblables, l'aversion mutuelle des créatures dont les restes doivent tous reposer sous la même terre et se ranimer en même temps au dernier jour. Chapitre 16. Du gouvernement appelé le règne de la terreur. On ne sait comment approcher des 14 mois qui ont suivi la proscription de la Gironde le 31 mai 1793. Il semble qu'on descende, comme le Dante, de cercle en cercle, toujours plus bas dans les enfers. À l'acharnement contre les nobles et les prêtres, on voit succéder l'irritation contre les propriétaires, puis contre les talents, puis contre la beauté même, enfin contre tout ce qui pouvait rester de grand et de généreux dans la nature humaine. Les faits se confondent à cette époque, et l'on craint de ne pouvoir entrer dans une telle histoire sans que l'imagination en conserve d'ineffaçables traces de sang. L'on est donc forcé de considérer philosophiquement des événements sur lesquels on épuiserait l'éloquence de l'indignation, sans jamais satisfaire le sentiment intérieur qu'ils font éprouver. Sans doute, en ôtant tout frein au peuple, on l'a mis en mesure de commettre tous les forfaits. Mais d'où vient que ce peuple était ainsi dépravé ? Le gouvernement dont on nous parle comme d'un objet de regret avait eu le temps de former la nation qui s'est montrée si coupable. Les prêtres, dont l'enseignement, l'exemple et les richesses sont propres, nous dit-on, à faire tant de bien, avaient présidé à l'enfance de la génération qui s'est déchaînée contre eux. La classe soulevée en 1789 devait être accoutumée à ces privilèges de la noblesse féodale, si particulièrement agréable, nous assure-t-on encore, à ceux sur lesquels ils doivent peser. D'où vient donc que tant de vices ont germé sous les institutions anciennes, et qu'on ne prétende pas que les autres nations de nos jours se fussent montrées de même si une révolution y avait eu lieu. L'influence française a excité des insurrections en Hollande et en Suisse, et rien de pareil au jacobinisme ne s'y est manifesté. Pendant les 40 années de l'histoire d'Angleterre, qu'on peut assimiler à celle de France sous tant de rapports, il n'est point de période comparable aux 14 mois de la terreur. Qu'en faut-il conclure ? Qu'aucun peuple n'avait été aussi malheureux depuis 100 ans que le peuple français. Si les nègres, à Saint-Domingue, ont commis bien plus d'atrocités encore, c'est parce qu'ils avaient été plus opprimés. Il ne s'ensuit certes pas de ces réflexions que les crimes méritent moins de haine. Mais, après plus de 20 années, il faut réunir à la vive indignation des contemporains l'examen éclairé qui doit servir de guide dans l'avenir. Les querelles religieuses ont provoqué la révolution d'Angleterre. L'amour de l'égalité, volcan souterrain de la France, agissait aussi sur la secte des puritains. Mais les Anglais alors étaient réellement religieux, et religieux protestants, ce qui rend à la fois plus austère et plus modéré. Quoique l'Angleterre, comme la France, se soit souillée par le meurtre de Charles Ier et par le despotisme de Cromwell, le règne des Jacobins est une affreuse singularité dont il n'appartient qu'à la France de porter le poids dans l'histoire. Cependant, on n'a point observé les troubles civils en penseurs, quand on ne sait pas que la réaction est égale à l'action. Les fureurs des révoltes donnent la mesure des vices des institutions. Et ce n'est pas au gouvernement qu'on veut avoir, mais à celui qu'on a eu longtemps qu'il faut s'en prendre de l'état moral d'une nation. On dit aujourd'hui que les Français sont pervertis par la Révolution. Et d'où venaient donc les penchants désordonnés qui se sont si violemment développés dans les premières années de la Révolution, si ce n'est de 100 ans de superstition et d'arbitraire? Il semblait, en 1793, qu'il n'y eut plus de place pour des révolutions en France, lorsqu'on avait tout renversé, le trône, la noblesse, le clergé, et que le succès des armées devait faire espérer la paix avec l'Europe. Mais c'est précisément quand le danger est passé que les tyrannies populaires s'établissent. Tant qu'il y a des obstacles et des craintes, les plus mauvais hommes se modèrent. Quand ils ont triomphé, leur passion contenue se montre sans frein. Les Girondins firent de vains efforts pour mettre en activité des lois quelconques après la mort du roi. Mais ils ne purent faire accepter aucune organisation sociale. L'instinct de la férocité les repoussait toutes. Hérault de Séchelles proposa une constitution scrupuleusement démocratique. L'Assemblée l'adopta, mais elle ordonna qu'elle fût suspendue jusqu'à la paix. Le parti jacobin voulait exercer le despotisme, et c'est bien à tort qu'on a qualifié d'anarchie ce gouvernement. Jamais une autorité plus forte n'a régné sur la France. Mais c'était une bizarre sorte de pouvoir. Dérivant du fanatisme populaire, il inspirait l'épouvante à ceux-mêmes qui commandaient en son nom, car ils craignaient toujours d'être proscrits à leur tour par des hommes qui iraient plus loin qu'eux encore dans l'audace de la persécution. Le seul Marat vivait sans crainte dans ce temps, car sa figure était si basse, ses sentiments si forcenés, ses opinions si sanguinaires, qu'il était sûr que personne ne pouvait se plonger plus avant que lui dans l'abîme des forfaits. Robespierre ne put atteindre lui-même à cette infernale sécurité. Les derniers hommes qui, dans ce temps, soient encore dignes d'occuper une place dans l'histoire, ce sont les Girondins. Ils éprouvaient sans doute au fond du cœur un vif repentir des moyens qu'ils avaient employés pour renverser le trône, et quand ces mêmes moyens furent dirigés contre eux, quand ils reconnurent leurs propres armes dans les blessures qu'ils recevaient, ils durent sans doute réfléchir à cette justice rapide des révolutions qui concentre dans quelques instants les événements de plusieurs siècles. Les Girondins combattaient chaque jour et chaque heure avec une éloquence intrépide contre des discours aiguisés comme des poignards et qui renfermaient la mort dans chaque phrase. Les filets meurtriers, dont on enveloppait de toutes parts les proscrits, ne leur ôtaient en rien l'admirable présence d'esprit qui seule peut faire valoir tous les talents de l'orateur. Monsieur de Condorcet, lorsqu'il fut mis hors la loi, écrivit sur la perfectibilité de l'esprit humain un livre qui contient sans doute des erreurs, mais dont le système général est inspiré par l'espoir du bonheur des hommes. Et il nourrissait cet espoir sous la hache des bourreaux, dans le moment même où sa propre destinée était perdue sans ressources. 22 des députés républicains furent traduits devant le tribunal révolutionnaire, et leur courage ne se démentit pas un instant. Quand la sentence de mort leur fut prononcée, l'un d'entre eux, Valazé, tomba du siège qu'il occupait. Un autre député, condamné comme lui, se trouvant à ses côtés et croyant que son collègue avait peur, le releva rudement avec des reproches. Il le releva mort. Valazé venait de s'enfoncer un poignard dans le cœur d'une main si ferme qu'il ne respirait plus une seconde après s'être frappé. Telle est cependant l'inflexibilité de l'esprit de parti que ces hommes, qui défendaient tout ce qu'il y avait d'honnêtes gens en France, ne pouvaient se flatter d'obtenir quelque intérêt par leurs efforts. Ils luttaient, ils succombaient, ils périssaient, sans que le bruit avant-coureur de l'avenir pût leur promettre quelque récompense. Les royalistes constitutionnels eux-mêmes étaient assez insensés pour désirer le triomphe des terroristes, afin d'être ainsi vengés des républicains. Vainement, ils savaient que ces terroristes les proscrivaient. L'orgueil irrité l'emportait sur tout. Ils oubliaient, en se livrant ainsi à leur ressentiment, la règle de conduite dont il ne faut jamais s'écarter en politique. c'est de se rallier toujours au parti le moins mauvais parmi ses adversaires, lors même que ce parti est encore loin de votre propre manière de voir. La disette des subsistances, l'abondance des assignats et l'enthousiasme excité par la guerre furent les trois grands ressorts dont le comité de salut public se servit pour animer et dominer le peuple tout ensemble. Il l'effrayait, ou le payait, ou le faisait marcher aux frontières, selon qu'il lui convenait de s'en servir. L'un des députés à la Convention disait « Il faut continuer la guerre, afin que les convulsions de la liberté soient plus fortes ». On ne peut savoir si ces 12 membres du comité de salut public avaient dans leur tête l'idée d'un gouvernement quelconque. Si l'on en accepte la conduite de la guerre, la direction des affaires n'était qu'un mélange de grossièreté et de férocité, dans lequel on ne peut découvrir aucun plan, hors celui de faire massacrer la moitié de la nation par l'autre. Car il était si facile d'être considéré par les Jacobins comme faisant partie de l'aristocratie proscrite, que la moitié des habitants de la France encourait le soupçon qui suffisait pour conduire à la mort. L'assassinat de la reine et de Madame Élisabeth causa peut-être encore plus d'étonnement et d'horreur que l'attentat commis contre la personne du roi, car on ne saurait attribuer à ces forfaits épouvantables d'autre but que l'effroi même qu'ils inspiraient. La condamnation de messieurs de Malesherbes, de Bailly, de Condorcet, de Lavoisier décimait la France de sa gloire. 80 personnes étaient immolées chaque jour, comme si le massacre de la Saint-Barthélemy dût se renouveler goutte à goutte. Une grande difficulté s'offrait à ce gouvernement, si l'on peut l'appeler ainsi, c'est qu'il fallait à la fois se servir de tous les moyens de la civilisation pour faire la guerre et de toute la violence de l'état sauvage pour exciter les passions. Le peuple et même les bourgeois n'étaient point atteints par les malheurs des classes élevées. Les habitants de Paris se promenaient dans les rues comme les Turcs pendant la peste, avec cette seule différence que les hommes obscurs pouvaient assez facilement se préserver du danger. En présence des supplices, les spectacles étaient remplis comme à l'ordinaire. On publiait des romans intitulés « Nouveau voyage sentimental »,« L'amitié dangereuse »,« Ursule et Sophie ». Enfin, toute la fadeur et toute la frivolité de la vie subsistaient à côté de ses plus sombres fureurs. Nous n'avons point tenté de dissimuler ce qu'il n'est pas au pouvoir des hommes d'effacer de leurs souvenirs. Mais nous nous hâtons, pour respirer plus à l'aise, de rappeler dans le chapitre suivant les vertus qui n'ont pas cessé d'honorer la France, même à l'époque la plus horrible de son histoire.